Le Livre des règlements, une présentation de Desroches Mongeon Avocats, les spécialistes en matière de CNESST et SAAQ.
1-8-5-7-MES. MAITRES.
Le Livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement. Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon Avocats.
Nous en respectons les règles.
Voici le Livre des règlements.
Là, moi, je veux savoir, Sophie, si tu parles de la française comme ça quand t'es en cours.
Certain, oui.
À l'occasion, si ça vaut la peine.
Ah, OK.
Je pas à ça.
Juste clarifier ça.
Non, jamais.
Objection, votre honneur. Maître Sophie, comment ça va?
Ça va très bien. Quelle belle semaine. Je sais pas, cette semaine, ça sent le printemps. Là, j'ai le cœur à la joie.
C'est une belle semaine.
Oui, mais on a tellement des belles nouvelles en plus par rapport à la station. Comment ne pas être heureuse?
C'est vrai, exact. On continue. Par contre, tu commences pas par une super nouvelle. Là. Bertrand Charest remis en liberté. Il me semble que ça fait pas longtemps qu'il est en dedans, lui.
Non, hier, il y a un article qui est sorti par Soquige, là, qui est un blog juridique quelconque, qui nous informait qu'il a été remis en liberté selon l'article 679 du Code civil, du Code criminel, pardon. Et la raison, c'était parce qu'il y a eu deux technicalités. Alors là, je le sais que les auditeurs vont être frustrés parce que quand on parle de technicalité juridique, on dit, ah, ben tu sais, dans le fond, le monsieur comme tel, il a fait des actes criminels. Alors,
on se souvient des jeunes filles dont la vie est perturbée jamais par cet homme-là.
Oui, 12 jeunes filles âgées de 12 à 18 ans. Donc, lui, il y a eu 37 chefs d'accusation de nature sexuelle qui avaient été mis contre lui. Et il avait déjà fait une première demande pour être remis en liberté le 18 décembre 2017, puis ça avait été refusé. Là, il a fait une nouvelle demande le 25 mars, donc ça fait pas extrêmement longtemps, mais les circonstances avaient changé. C'est-à-dire que le procureur général avait concédé 8 acquittements, 2 nouveaux procès et 10 arrêts conditionnels des procédures. Donc, ça faisait en sorte que le temps qui lui était alloué était diminué. Ce qui faisait en sorte que là, il pouvait alléguer qu'il y avait moins d'accusations contre lui. Donc, il pouvait faire une demande là, de remise en liberté.
Le problème, c'est que c'est 37 crimes, là.
Ouais.
Tu peux pas faire x 37 à sa peine. C'est ça le problème. Pour ce crime-là. Je sais que maintenant, on peut le faire pour le meurtre au premier degré. On l'avait vu dans le cas d'Alexandre Bissonnette à Québec, le tueur de la mosquée. On pouvait multiplier là, ces 6 meurtres. On pouvait faire 150 ans que ça. C'est pas ce qui a été fait. Là, c'est 40. Mais on peut pas faire ça pour tous les crimes, malheureusement. Là. Donc, Bertrand Charest aurait pu en faire 37 autres. La peine n'aurait pas été différente.
Non, c'est des peines concurrentes. qu'on les nomme. Fait que dans le fond, là, ces nouveaux changements-là ont fait en sorte que le nombre de verdicts contestés est passé de 37 à 17. Donc, ça lui permettait de faire cette demande de remise en liberté. Et également, le procureur là, de M. Charest a trouvé qu'il y avait une erreur de calcul dans la détention provisoire.
Okay.
Donc, ça réduisait sa peine de 16 mois.
Ça, c'est quand on le met en prison avant qu'il ait sa peine, avant qu'il ait sa sentence. C'est de la défense. Tu dis provisoire, est-ce qu'on peut dire aussi préventive?
Oui, mais c'est ça. Le temps que tu passes en prévention ou provisoire compte plus que le temps fait par la suite après ton verdict.
Je pensais que ça avait été enlevé par les conservateurs. Ça, mais ça a été, avant, c'était le double, c'est 1,5?
Je suis pas une spécialiste du droit criminel. Je pourrais pas te donner les détails comme tel, mais ce qu'on sait, c'est qu'en bout de ligne, maintenant, la sentence est passée à 6 ans et demi. Et étant donné maintenant qu'elle avait tellement purgé avant, donc il a pu faire une demande de remise en liberté. Alors, c'est des technicalités qui font en sorte que des fois, je me demande si le citoyen peut comprendre. Et on dit que la justice est aveugle, elle paie pas tout le temps.
Je peux dire que les parents de ces enfants-là, ils comprennent pas. Là.
Non, quand je les comprends. Pas,
quand tu passes un an dedans puis que ça en vaut plus, ça vaut un an et demi, deux ans, là, quand tu es l'avocat de la défense, là, quand tu défends ton agresseur sexuel, là,
toi, des remords de conscience.
Lui, il fait sa job. Là. Ouais, mais quand tu le défends, tu as avantage pour ton client à faire durer les procédures plus longtemps parce que le temps qu'il purge là, ben, il va pouvoir sortir plus vite après. Là.
Oui, mais souvent, oui. Ben, on peut le voir de cette façon-là, mais je pense que n'importe quel temps passé en prison, c'est un temps affreux. Là. Fait que, mais oui, on peut le voir de cette façon-là, mais c'est pour ça que j'ai jamais choisi de faire de droit criminel.
C'est pas affreux, là. Moi, je n'y aurais donné plus.
Ouais.
Mais comment est-ce qu'on peut faire? C'était un Moi, c'est ça qui me fascine. Tu es un avocat, puis tu défends ce truc derrière-là, puis tu essaies de minimiser qu'est-ce qu'il a fait. Comment est-ce que tu peux... Tu sais, arriver chez vous le soir, puis regarder tes enfants d'en face, ta femme d'en face, « Hey, j'ai fait une bonne job aujourd'hui. » Tu sais, je défends un truc derrière, puis Non, non, mais ça, ouais, ça m'écoeure.
C'est vrai, mais c'est...
Tu comprends?
C'est le pays dans lequel on vit, tu sais, c'est d'avoir chacun la chance de se défendre. Imagine si t'es accusé à tort, ça te prend un avocat pour te défendre, même si tout le monde pense que t'es coupable, mais toi, tu sais que t'as rien fait.
Ouais, mais à tort, c'est pas pareil. Là, on le sait qu'il a fait quelque chose.
Je comprends, mais le système, c'est pour tout le monde. Ouais. Égal,
comme l'histoire de Turcotte, hein, on sait bien qu'ils avaient vraiment tué ses enfants, mais il était acquitté en première ronde, puis finalement, c'est à la cour d'appel, finalement, qui a été condamné.
Heureusement.
Mais c'est pour ça que j'ai pas fait de droit criminel dans ma vie. Je suis du même avis que toi, Gilbert. C'est pas quelque chose, moi, que je serais capable de vivre avec. Là.
C'est ça. Très difficile, quand même, comme métier, mais il y en a qui en font une spécialité aussi, qui sont capables de le faire. Et tant mieux pour les gens accusés à tort. Mais pour ce qui est des Bertrand Charest remis en liberté comme ça, c'est vrai que ça peut. On serre les poings en tant que citoyen quand on entend ça.
On a une pensée pour les victimes et les familles.
Tout à fait. Les Molson poursuivent la ville de Laval. Il y a eu un encart récemment dans le journal. Honnêtement, après plusieurs lectures, j'y ai pas compris grand-chose. Il y a une histoire là, de taxes, mais aussi la ville doit donner un retour à la famille Molson pour l'exploitation de la place Belle. Je la pogne pas, là. Plus de détails.
Mais l'aréna du Rocket, là, qui est une filiale du groupe CH, là, qui gère l'amphithéâtre de 200 millions, où joue le Club École du Canadien, a déposé une requête en cour supérieure en avril 2019. J'ai trouvé cette information-là dans un article le 12 avril.
Exact.
Ce qu'on comprenait, c'est que le Canadien refusait de payer les 5,3 millions que la ville réclamait en taxes foncières pour la place Belle depuis août 2017. Ce que ADR allègue, c'est que la Cité de la culture et du sport de Laval, qui est un bras de la ville qui exploite le complexe sportif, s'était engagée à verser une aide financière en retour du paiement des taxes. Mm-hmm. Fait qu'en principe, si je comprends bien, ADR paye les taxes, mais cette branche-là, la Cité de la culture du sport de Laval, devait donner une aide financière.
C'est quasiment équivalente aux taxes qui sont dues, là.
6 815 228 pour être exact, plus les intérêts et les frais. Alors, ADR a dit, écoute, verse-moi mon aide financière, je vais te payer les taxes. Et étant donné qu'on n'a pas les moyens actuellement parce que c'est encore en déficit, ben si tu nous payes pas l'aide financière, on paye pas les taxes. Puis c'est à peu près ça qui se passe pour l'instant. L'histoire le dit pas, là, c'est tout au début. Alors, je pourrais faire un suivi en temps et lieu quand on aura des nouvelles précisions par rapport à tout ça.
Je peux pas croire que Laval, avec l'argent de ses citoyens, a bâti un complexe pour le Club École du Canadien et qu'en retour, le Canadien arrive là et avec le retour de l'aide financière de la ville, il n'a même pas de taxes à payer et que pour l'instant, il ne les paye pas et le retour se fait pas. Quelle histoire bizarre. Intéressez-vous à votre politique municipale parce que les élus municipaux, des fois, ils dépensent des fortunes et vous en passent des petites vites.
Mais finalement, ce qu'on sait quand même, là, c'est que les Molson ont quand même payé 2 millions de taxes en mars.
Oui, effectivement.
Donc,
il y a eu un paiement qui a été fait.
Signe de bonne foi.
Tout à fait. Et puis, la saison du vélo est de retour. On en voit de plus en plus sur les routes. Bon, ça a été un printemps difficile, mais il y en a pour qui, peu importe les conditions, ils sortent faire du vélo. Par contre, il y a un incident triste qui est arrivé en fin de semaine.
Oui, bien, le 24 avril, à Longueuil, il y a un cycliste qui s'est fait frapper par un automobiliste. Et là, ça m'a fait penser, effectivement, que devant chez nous, devant notre bureau, les Bixi sont sortis.
Oui.
Et là, la question que je me posais, il va y avoir le Tour de Lille, il y a plein de gens qui font du cyclisme, mais comme sport hein, aussi. Alors, c'est quoi la protection des cyclistes? Puis c'est quoi notre obligation en tant qu'automobiliste? Donc, le jeune en fin de semaine là, qui a été frappé par un automobiliste à Longueuil, ça m'a comme un peu interpellée. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec tout ça encore? C'est vrai. Et là, ça m'a ramené à... Vous vous rappelez l'histoire de Clément Ouimet? Clément Ouimet, là, il était sur le Mont-Royal, sur le chemin Camillien-Houde.
Oui, l'an dernier. L'histoire du U-turn qui a été fait là, par l'automobiliste. Là.
Oui, c'est un touriste américain. Il est décédé le 4 octobre 2017.
Et depuis ce temps-là, on ne peut plus rouler en transit là, sur le Mont-Royal.
Je pense entre juin et octobre. Hein. Qu'ils ont bloqué tout ça là, et ça a fait des gros débats au niveau de la ville. Là, évidemment, encore, hein, on dit la politique municipale. Donc, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fermé le chemin de juin à octobre. Et là, il y a plusieurs personnes qui disent « Oui, mais ce touriste-là américain a fait un U-turn en plein milieu de la rue et devrait être accusé. » Bien, le directeur des poursuites criminelles n'a pas fait d'accusation contre lui parce que c'était pas volontaire. Vous savez, pour être poursuivi au criminel, il faut quasiment avoir l'intention.
Oui, se servir de l'automobile comme une arme.
Oui, un meilleur culpa, là, de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait. Là. Ouais. Dans ces circonstances-là, le touriste n'a pas été vraiment...
C'est encore le no-fault qui s'applique. Là.
Et c'est le no-fault qui s'applique. Ça m'a fait aussi penser, effectivement, tu sais, on se rappelle là, que Louis Garneau, l'année passée, il y a eu un accident de vélo lui-même. Hein, quel drôle d'adon.
Triste destin, là, mais ça s'en est sorti. Là.
Oui, pourquoi qu'il s'en est sorti, lui?
Le casque?
Il y avait un casque.
Ah, c'est ça. Ben, il y a un casque Louis Garneau, j'imagine.
J'espère pour ça lui. Doit.
Il doit avoir les shorts Louis Garneau, il doit avoir les souliers Louis Garneau, toute la patente. C'est sûr.
Puis quelque chose à l'effigie de la reine d'Angleterre?
Probablement.
Mais il y a une nouvelle réglementation qui est pas, ça fait pas si longtemps que ça existe, mais c'est officiellement entré il y a quelques années, le fameux 1,5 mètre qu'on doit laisser en tant qu'automobiliste là, au vélo. Donc il y a un cycliste sur le bord de la rue, vous devez laisser un dégagement d'1,5 mètre pour pas qu'il se fasse prendre par un miroir. Là. Mm-hmm. Puis, des fois, ça...
On comprend très bien.
Des fois, il faut que tu freines. Hein, parce que c'est pas vrai que tu peux laisser 1,5 mètre partout à Montréal quand tu roules. Là,
mais en même temps, il y a une responsabilité aussi, automobilistes, mais les cyclistes, là, souvent, là, t'sais, dans le milieu de la rue, puis j'ai rien contre l'exercice, puis c'est parfait, mais il y a une place, tassez-vous au bord.
Mais c'est des cyclistes de compétition sur les routes qui veulent pas faire des petites pistes cyclables familiales.
Ouais, mais en plus, puis si t'as un stop en vélo, puis arrêtez-moi si je me trompe, là, c'est un stop, là, mais t'as un stop. Là.
Un stop pour tout le monde, une lumière rouge, c'est pour tout le monde.
T'as une lumière rouge, fait que moi, je suis à la verte, je passe avec mon auto, c'est à la verte, je suis à la verte, si t'es un cycliste, puis tu passes à la rouge.
J'ai déjà fait une opération policière dans une vieille époque du 91-9 avec les policiers qui étaient là. J'ai assisté à ça. Et les vélos, les cyclistes n'ont même pas le droit de tourner à droite sur un feu rouge. Là. Tu t'arrêtes sur
un
feu rouge.
Comme un véhicule.
C'est exactement la même chose. Tu vas du même bord, tu es à droite, tu conduis à droite de la route. Et quand tu arrives devant un stop, tu fais un stop. Quand tu arrives devant une lumière rouge, c'est rouge pour toi, tu ne peux pas virer à droite. Il y en a qui arrivent sans freiner puis ils tournent à droite. Très dangereux parce qu'après ça, les automobilistes ou les camionneurs ont encore moins l'occasion de s'arrêter.
Oui, ben effectivement, il faut apprendre à partager la route. Et ça m'a amené aussi à trouver que depuis plusieurs années, depuis 9 ans, là, sur la rue Sherbrooke, il y a eu 434 cyclistes qui ont été blessés.
Aïe, aïe.
Donc, la rue Sherbrooke, c'est une rue qui est empruntée énormément par les cyclistes, puis il n'y a pas vraiment de protection. Alors, c'est aussi tout l'aménagement de la ville. Je sais que Valérie Plante, là, elle a vraiment ça à cœur, les cyclistes, etc. Est-ce que ça fait unanimité pour les conducteurs de véhicules? Pas vraiment. Mais à ce stade-ci, je pense qu'il faut faire quelque chose pour protéger nos cyclistes.
Sherbrooke, ça passe vite. C'est large.
Du trafic. Beaucoup de trafic.
Effectivement, t'as beaucoup de transit qui se fait. Puis je comprends les cyclistes de prendre Sherbrooke parce que t'as pas de cul-de-sac. C'est d'un bord à l'autre de l'île. Il y a peut-être d'autres chemins à prendre, là, moyennant un petit détour, mais plus en sécurité. Moi, en tant que cycliste, je me sentirais pas en sécurité sur Sherbrooke.
C'est un accident de bicycle. Est-ce que tu sais, LP, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que tu as une protection quelconque? Est-ce que tu as de l'assurance?
Ben, j'ai l'impression que les règlements de la SAQ s'appliquent puisqu'on est sur le réseau routier. Est-ce que je me trompe?
C'est pas nécessairement le réseau routier, c'est le contact avec le véhicule.
Okay.
Donc, à partir du moment, même si c'est sur une piste cyclable, si par exemple, parce que j'ai un arrêt jurisprudentiel là, qui nous dit qu'une jeune fille s'était fait frapper sur la piste cyclable comme telle par un véhicule, à partir du moment où il y a un contact, ou une manœuvre pour éviter. Ça, c'est un petit peu plus nébuleux, par exemple, parce que c'est plus difficile à prouver. Là. À partir du moment où il y a une interaction avec un véhicule automobile et ce qui fait en sorte que tu te blesses, tu peux réclamer auprès de la Société de l'assurance automobile. C'est l'article 83, pour le Jean Blanc de mémoire, là, qui nous confirme là, qu'à partir du moment où il y a un véhicule automobile impliqué, tu ne peux pas faire aucune poursuite au niveau civil. 83.57, pour
être
exact.
Si un autre cycliste malade qui arrive et qui me rentre dedans, en descendant de Pont-Jacques-Cartier, je suis pas couvert. Si je me viande tout seul, je suis pas couvert non plus. Là.
Non, pas du tout. Puis qu'est-ce qui se passe si en plus tu fais le tour de l'île, par exemple?
Oui, exact, pendant une activité qui est...
Une activité sportive organisée, parce que ça arrive assez souvent. Là, la question que je me posais, parce qu'en principe, quand tu fais des courses automobiles ou tu fais du... tu utilises ton automobile à des fins qui sont différentes ou quoi que ce soit, puis tu as un accident, c'est pas couvert. Mais là, je me dis, si tu fais partie d'une compétition de bicycle, de cyclisme, puis tu as un événement, tu n'es pas couvert du tout.
Non.
Ben oui, okay. S'il y a un contact avec un véhicule.
Encore le véhicule.
Sinon, il n'y a pas de couverture. Non.
Pas de couverture.
Ou dans un peloton, là, parce qu'il va en arriver. Il va en avoir des pelotons, là, puis souvent, il y a des accidents, puis il y a des réactions en chaîne, des dominos, là, puis là, je ne suis pas couvert. Là.
Non.
OK.
Pas couvert. Mais j'ai trouvé une décision de 2002 où le tour cycliste de l'Abitibi, c'était un conducteur qui n'avait pas vu comme tel qu'il avait un tour de l'île. Et puis finalement, il est rentré dans le peloton, il en a blessé quelques-uns.
Ah,
et là, c'est la compétition annuelle du tour de l'Abitibi. Alors, la personne, Luc Marcel, lui qui s'était blessé davantage, avait tenté de poursuivre le jeune qui avait fait la manœuvre. Et puis finalement, il était débouté où on lui a dit, effectivement, quand il y a une disposition ou un contact avec un véhicule, l'article 83.57 de la loi fait en sorte que tu ne peux pas poursuivre pour les dommages physiques ou indemnité de remplacement de revenus. Tu peux toujours poursuivre pour les dommages matériaux, mais tu sais, quand ton bicycle vaut 500 ou 2000 maximum, ça fait beaucoup de démarches pour récupérer 2000 $.
Là. Mais si vous avez d'autres questions, cassez-vous pas le bicycle, écrivez-nous lpg@919sport.ca. Sophie Mongeon, merci beaucoup.
Merci, Sophie.
Bonne semaine.
Le livre des règlements, une présentation de Desroches Mongeon Avocats, les spécialistes en matière de CNESST et SAAQ. 1-855-MAITRES